bonsoir. Avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Deux thèmes sont au menu de la tribune de ce soir, à savoir l'opération des dépôts des candidatures pour les provinciales qui devait prendre fin ce 5 mai a été prolongée jusqu'au 25 mai sur toute l'étendue de la RDC. Selon la CENI, cette dérogation n'aura aucune incidence majeure sur le chronogramme global des élections. Dans notre deuxième et dernier thème de ce soir, nous parlerons de la déclaration de la MONUSCO qui annonce une action très forte contre les rebelles des EDF, ceci au lendemain de l'attaque armée qui a coûté la vie à deux casques bleus et trois civils dans la région de Beni. Trois confrères avec moi dans cette émission pour les débats. J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa. J.R. Mokolo, bonsoir.
Oui, bonsoir Kelly, bonsoir chers auditeurs de Radio Capi.
Merci. Luc Mikomo Kavonga, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet aussi depuis Kinshasa. Il est aussi éditeur du Nouveau Regard, c'est un journal, Luc.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Dona Moussema qui intervient depuis Bukavu, Sud-Kivu, il est directeur général de la radio Iriba FM et point focal de l'association des journalistes des Grands Lacs représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Dona Moussema, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir aux confrères, à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous Alain Hirong.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des journaux quinois cette semaine. Commençons par le journal La Prospérité qui a annoncé à la une dépôt de candidature au provincial, CENI, 20 jours supplémentaires accordés aux retardataires. La consoeur annonce que la CENI vient de prolonger de 20 jours le délai de réception des candidatures pour les provinciales. Initialement prévu pour le 5 mai, la clôture interviendra cette fois-ci le 25 mai 2015 à 16h30. Plusieurs raisons sont à la base de cette prolongation. Selon le quotidien, la CENI évoque entre autres des difficultés logistiques pour certains candidats d'accéder à certaines parties du territoire national. Il faut ajouter également l'accomplissement de certaines formalités qui passent par l'obtention de plusieurs attestations et certificats, doublés de la lenteur administrative des services de l'état civil, renchérit le tabloïd. Dans un autre chapitre, Forum des As nous informe que Boshab affronte une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas échappé à la plume du tabloïd du groupe L'Avenir qui renseigne que devant une opposition divisée, Ramazani et ses compagnons font une démonstration de force. La motion de défiance et l'opposition qui ressemblait beaucoup plus à un pétard mouillé et que 52 députés ont signé n'était qu'un ensemble de supputations et non des arguments juridiques opposables à tous. Enfin, la MONUSCO annonce la guerre contre les ADF, titre l'Observateur, soulignant que la MONUSCO a annoncé qu'elle allait agir immédiatement en menant une action forte contre les rebelles ougandais de l'ADF. Une déclaration faite par le commandant de la force de la mission onusienne au lendemain de l'attaque armée attribuée aux 10 rebelles ougandais. Cette déclaration a été suivie par celle du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a indiqué que le gouvernement prenait très au sérieux ce qui se passait au Nord Kivu et n'allait pas se limiter à une simple dénonciation. Le journal renseigne que le général Santos Cruz, accompagné du commandant de la brigade d'intervention, s'est rendu le 6 mai sur le lieu de l'attaque contre le contingent tanzanien sur l'axe Kisiki-Maïbo. Il a promis d'utiliser tous les moyens pour éliminer les rebelles ougandais. Terminons par cette autre actualité. Le général-major Jean-Claude Kifoua, commandant de la deuxième zone de défense, regroupant la province du Katanga et celle des deux Kassai, appelle les communautés bantoues et pygmées de Nyunzu à cesser les hostilités et à dialoguer au lieu de recourir aux armes blanches, informe le potentiel. Cet officier des FRDC a lancé cet appel mercredi 6 mai dans un entretien accordé à Radio Capi au lendemain des échauffourées entre les deux communautés de la cité de Nyunzu, située à 191 km de Kalemi, province du Katanga, faisant 6 morts et occasionnant un énième déplacement de population.
Merci Alain Héron pour cette revue des presses. J.R. Moukolo, je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision. C'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Revenons sur l'affaire motion de défiance contre le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Evariste Boshab, au sujet de sa responsabilité dans l'affaire concernant la fosse commune. Une motion qui a été rejetée. Les signataires de cette motion crient au fanatisme au sein de la majorité présidentielle.
Oui, en tout cas, l'issue de cette affaire de la motion n'étonne personne. C'était prévisible que la majorité présidentielle allait en tout cas faire tout pour que cette motion ne puisse pas passer. Et on a maintenant abandonné la pratique qui consistait à retirer les signatures. On estime que c'était politiquement immoral. Maintenant, on en vient à inventer une autre pratique, c'est-à-dire une motion incidentielle qui arrête la motion principale. Voilà ce qui a été utilisé. Et c'est même pas parce que l'opposition était divisée que cette motion n'a pas abouti. Même si l'opposition était soudée, in fine, la majorité présidentielle est majoritaire, si je puis me répéter ainsi. Même si on passait au vote, on allait, je crois, avec des mots d'ordre, parce qu'il fallait à tout prix sauver les soldats Boshab, et surtout que Boshab aussi, c'est vraiment une grande personnalité aussi, la majorité présidentielle. Tout allait être fait pour que le vote soit négatif sur cette motion. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Bon, on nous parle d'une affaire qui relèverait du gouvernement provincial, mais moi, je m'étonne. Qu'est-ce que les ministres de l'Intérieur et son collègue de la justice sont allés faire au Parlement avant cette séance sur la motion de défiance? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils allaient, disons, brandir le même argument pour ne pas se présenter à la représentation nationale. Mais ils l'ont fait arriver maintenant. Au moment où on devait faire face à cette motion de défiance, on s'est dit que non, c'est une affaire qui devrait être réglée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je crois que c'est une fuite de responsabilité. C'est vraiment dommage.
Luc Mikomo Kabonga, très journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui met aussi depuis Kinshasa. Vous êtes éditeur du Nouveau Regard, c'est un journal, également président provincial de l'Association mondiale des communicateurs catholiques. L'issue de cette motion a été connue?
Oui, c'est comme dit le confrère, depuis que nous assistons aux plénières par motion de défiance, interpellation, etc. J'ose croire qu'aucune des motions n'a abouti. Nous connaissons la musique. Et d'abord, avant d'introduire cette motion, moi je me pose la question, est-ce que les députés de l'opposition se posent la question de savoir qui suis-je? Moi qui introduis une motion de défiance. Qui va voter? Et quels sont les mécanismes? Cela pouvait avoir un sens si nous étions dans un pays véritablement démocratique. Notre pays ne porte de démocratie que d'adjectifs qualificatifs. Mais au fond, il n'y a pas de démocratie. De deux, la personne contre laquelle la motion a été introduite, il est le patron du principal parti dont le président, dit-on, est l'autorité morale. Et je sais que les députés de l'opposition qui introduisaient cette motion savaient qu'elle n'allait pas aboutir.
C'était une démarche inutile.
C'était vraiment une perte de temps, une perte d'énergie. Mais il faut ajouter tout de suite quelque chose. Nous connaissons la partition qui se joue au Parlement lorsqu'il s'agit d'une motion. Nous savons comment ça procède. Des motions sont devenues aussi quelque part, je ne le dis pas de la présente, encore que je ne maîtrise pas tout le rouage, les motions sont devenues des opportunités toutes offertes aux députés de se faire un peu d'argent, si pas beaucoup d'argent. Et donc, c'était un exercice qui était voué à l'échec, mais peut-être leurs initiateurs savent comment ils pouvaient gagner là-dedans ou comment ils ont pu trouver leur compte en déposant une telle motion dont l'issue était dorénavant connue.
Donald Moussema, directeur général de la radio Iriba FM, et mettant depuis Bukavu et point focal de l'Association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Bukavu?
Merci. L'actualité à Bukavu est aussi dominée par une autre motion. Comme vous veniez d'en parler, il s'agit de la crise entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, la crise qui est causée par une motion de censure qui a été initiée et signée par 20 députés sur 36 contre le gouverneur Marcelin Tshishambo. une motion qui est tombée depuis le 6 avril dernier jusqu'à aujourd'hui comme un coup d'étoilé dans l'opinion, des déclarations divergentes ont débouché de partout, tantôt pour donner raison aux députés provinciaux, tantôt pour donner raison au gouverneur lui-même.
Et qu'est-ce qu'on reproche au gouverneur?
Le gouverneur devait être entendu au sujet de tous les griefs qui lui étaient reprochés, ont avorté, car au lendemain de cette motion de censure, tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont été rappelés d'urgence à Kinshasa pour peut-être une voie de sortie, on ne le confirme pas. Mais ce qui est vrai est qu'au moment où je vous parle, aussi bien pour le gouverneur Marcelin Tshisambo que pour les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, sont tous retenus à Kinshasa depuis lors à cause de cette crise qui, d'après les motionnaires, voudrait ainsi déboucher au départ du troisième gouverneur élu démocratiquement au sud Kivu par les mêmes députés de la majorité après qu'ils aient fait partir deux autres gouverneurs, lui Léon Tshirimwami Mudewa et Célestin Tshibalonza Diaterana, bien que tous, comme je le disais, soient de la même famille politique, c'est-à-dire de la majorité provinciale.
Oui, oui Donna, qu'est-ce qu'on reproche au gouverneur Tshisambo?
Bon, la motion fait 6 pages totales. Il y a des conflits internes, on parle de la gestion, on parle aussi surtout des indemnités de sortie qu'ils n'avaient pas encore accordées aux députés jusque-là. Beaucoup de choses, donc c'est plus de 6 pages. Il y a beaucoup de griefs, on parle aussi dans le secteur de sécurité et tout, mais c'est plus un règlement des comptes, c'est un problème entre eux-mêmes au niveau donc de la famille, voilà, surtout les indemnités de sortie.
Merci Donna Moussema. Brièvement, vous allez réagir à cette autre info de la semaine, c'est la clôture des états généraux de la justice. J.R. Mokolo, le ministre de la justice, Alexis Tambwe, se fixe l'objectif de mettre les secteurs de la justice sur les rails. Brève réaction sur l'organisation de ces états généraux de la justice. Est-ce qu'il est vraiment opportun d'organiser cela?
Je dirais des assises de trop, qui en tout cas ont consommé de l'argent pour rien. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nous étions en concertation nationale et tous les secteurs de la vie nationale ont été, je crois, ont été examinés et les recommandations ont été faites et il ne restait qu'à les appliquer. Et moi je me dis, le ministre se comporte comme étant le patron de la justice. Il n'est pas le patron de la justice, il appartient au pouvoir exécutif. Et la justice, ce sont les cours et tribunaux qui devront, en principe, à travers leur structure, le Conseil supérieur de la magistrature, pouvoir piloter cette justice-là et faire en sorte vraiment que la justice congolaise ait le moyen de son indépendance. Et il y a deux fléaux qui gangrènent la justice congolaise, c'est la corruption. Les magistrats...
Ils ont évoqué voilà, ça dans ces états généraux.
Voilà, il y a la corruption. Et il y a aussi le fait que les magistrats ne sont pas indépendants vis-à-vis d'autres pouvoirs. Donc moi je me dis, encore des recommandations, on attend qu'on puisse les appliquer, on attend de voir que effectivement cette justice-là se comporte comme une justice indépendante et qu'on ne va pas mettre des gens pendant 80 jours dans un cachot clandestin et qu'un magistrat récupère les dossiers pour, par exemple, juger cette personne-là, mais oublier que le fait qu'on ait gardé la personne pendant 80 jours, c'est aussi une infraction qui devait être prise en charge par la justice.
Luc, mais comment assises de trop?
Je ne dirais pas que ce sont des assises de trop. Chaque fois qu'il s'agit de réfléchir sur le devenir, sur le destin de notre pays, je crois, pour moi, que ça vaut la peine. Mais seulement, je me dis que si les réflexions qui sont sorties de ces assises sont, on le sait, des réflexions qui ne vont pas sortir leurs effets aujourd'hui, tôt ou tard, ces réflexions-là vont porter du fruit. C'est pourquoi je dis, tiens, on va bousiller l'argent de l'État parce qu'ils savent bien que cela ne va pas produire les effets immédiatement, mais un jour ou l'autre, ces assises-là pourront servir de repère ou de référence pour siéger sur des cas qui vont se poser à un moment ou à un autre. Mais ce que je sais, c'est que, comme dit le confrère, aujourd'hui, ces assises risquent de donner l'impression qu'elles n'ont été organisées que pour une consommation soit interne, soit externe, parce qu'au fond, je ne vois pas quel est ce diagnostic qui n'a pas été posé dans notre pays, dans le domaine de la justice. Le président de la République, il y a 2-3 ans, a parlé des magistrats de la rupture. Mais vous savez, d'après une enquête menée par Human Rights Watch, la corruption a pris une dimension inquiétante depuis que sont venus les magistrats dits de la rupture.
Premier terme de ce soir, vous le savez, la FENI a prolongé la date du dépôt des candidatures pour les provinciales sur toute l'étendue de la RDC. Le vice-président de la FENI annonce que cette opération, qui devait s'achever le 5, va jusqu'au 25 mai prochain. André Pungwe précise que cette prolongation n'aura aucune incidence sur le chronogramme global établi par la FENI. On écoute Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la FENI, au micro de Jacques-Yves Molima.
D'ici au 25 mai, c'est ça les délais de prolongation. Du 26 mai au 30 sont les 5 jours du délai légal de retrait, ajoute ou substitution des candidats. Et aux alentours du 7, la CENI aura déjà examiné au niveau du bureau la liste des candidats députés provinciaux de toute la République pour publier la liste provisoire. Vous nous avez vu depuis le 15 faire le tour de la ville et nous avons les opérations de monitoring, sans oublier que nos téléphones ont chauffé au coin et au recoin. Il y avait des difficultés telles que les signaux qui n'étaient pas opérationnels dans certaines entités. Le cas de Inongo est le plus récent. Il y a beaucoup de paramètres que nous avons à travers notre plan opérationnel qui contraint que nous puissions prolonger de 20 jours.
Luc Mikomo, comment vous analysez ce report de la date du dépôt des candidatures pour les provinciales sur toute l'étendue de la RDC?
Kelly, pour moi, M. Kalamba, il fait de la communication pour un temps soit peu sauver les visages de la CENI. Mais je crois qu'il n'y a personne qui ne soit dupe dans ce pays pour constater que les départs étaient ratés et que j'apprends que dans d'autres circonscriptions électorales, il n'y a eu que deux candidatures. Deux candidatures. Mais j'ose croire que la
CENI... Alors, quand vous dites que le départ était déjà raté,
oui, mais regardez,
le calendrier qu'ils ont présenté.
La CENI a présenté un calendrier global, réclamé aussi bien par l'opposition, par la société civile que par la communauté internationale. La CENI a présenté ce calendrier-là. Après son analyse, on s'est rendu compte que ce n'est pas le calendrier qu'il fallait avoir et que par rapport aux contraintes du moment, ce calendrier devrait être reformé et reconsidéré à mains égards, mais la CENI a semblé fermer les oreilles. Alors, elle a appelé les gens au dépôt des candidatures. Même à Kinshasa, ça n'a pas été un véritable engouement. En province, c'est pire. Bon, l'argument qu'avance M. Jean-Pierre Kalamba peut être mutatis mutandis valable, mais la vraie raison, c'est que les gens ne sont pas chauds avec le programme que présente la CENI pour organiser les élections. Aujourd'hui, plutôt hier ou avant-hier, certaines plateformes de l'opposition se sont réunies pour analyser froidement ce calendrier. Autour de l'AETA, RICIC, Ligue des électeurs, ainsi de suite, que la conclusion était que dans l'état actuel de la situation, l'organisation des élections telle que perçue par la CENI est impossible. Mais si la CENI continue de fermer les oreilles, nous allons tout droit jusqu'à l'impasse politique.
La CENI doit tenir compte de tous ses avis.
La CENI n'organise pas les élections pour elle. Elle n'organise pas les élections à la place de la population, mais elle organise les élections avec la population.
Merci.
Pardon, deux petits mots, Kelly, je termine
juste
par là.
Juste deux petits mots.
Donc, à part la plateforme des organisations de la société civile, il y a des politiques censées, fameux, telles que Lutundula et l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, qui parle de l'impossibilité de l'organisation des élections maintenant si les préalables ne sont pas pris en compte.
Hier, Mokolo, la commission électorale indépendante, précise que cette prolongation n'aura aucune incidence sur le chronogramme global établi par elle.
Oui, je dois d'abord rappeler le principe dans le principe de Congolais, en tout cas, nous sommes caractérisés par ce qu'on appelle la procrastination. Donc, c'est la tendance à remettre à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui ou à plus tard. Donc, imaginez-vous, rappelez-vous par exemple le dialogue entre Congolais. Ça n'a pas été achevé à la date prévue. La conférence nationale est allée de prolongation en prolongation. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que la CENI, en tout cas, puisse faire la même chose de pouvoir prolonger. Mais cette CENI, là, je crois, elle a manqué de pouvoir quand même rectifier les tirs. Je crois, sur votre radio, le professeur Jacques Djoulé Sengekeli, professeur des droits constitutionnels, était invité de Radio Capi. Il avait proposé, dès le lendemain de la publication de ce calendrier, qu'on devait postposer les élections locales, municipales et urbaines pour ne pas saturer ce calendrier, pour permettre à ce qu'on ait suffisamment de temps. La CENI n'a pas écouté toutes les voix qui lui demandaient en tout cas de pouvoir donner un calendrier réaliste, pas très encombrant. Mais aujourd'hui, la CENI est pratiquement rattrapée par l'histoire et la CENI va prolonger maintenant les délais. Et ça aura des incidences parce que si la CENI tient par exemple aux élections urbaines, municipales, tout ça, et vous voyez, rien que pour la députation provinciale, avec tous ces défis logistiques, tous ces défis sur le plan administratif. Et imaginez maintenant, quand on va arriver, par exemple, au dépôt des candidatures pour les nombreux des milliers de candidats au niveau local, municipal et urbain, avec la lenteur administrative aussi, avec les défis logistiques, je ne sais pas à quoi est-ce que ça va ressembler, en tout cas, ce travail de la CENI. Donc, il serait bon, je crois, comme bientôt là, il y a des consultations pour les fameux dialogues, qu'on se retrouve au niveau de la classe politique avec la CENI aussi, qu'on voit un peu ce calendrier. Si on estime que, vu le manque d'argent, vu les défis logistiques et la lenteur administrative, si on estime que certaines élections peuvent en tout cas compliquer la tâche et amener jusqu'au glissement, ce serait bon quand même, serait réaliste qu'on puisse les évacuer et faire un calendrier tenable sur le plan administratif, sur le plan logistique et même sur le plan financier.
Dona Moussema, il y a certains politiciens qui pensent que la CENI est en train de tirer là les conséquences de sa conviction d'évoluer en vase clos.
Bon, peut-être qu'on peut le dire, mais je pense que la CENI est bloquée. La CENI est bloquée par le gouvernement parce que le gouvernement qui n'a pas jusque-là donné tous les moyens nécessaires pour que la CENI puisse être à l'aise. C'est vrai, elle venait de nous rassurer comme quoi il n'y aura pas de glissement, mais nous allons laisser le temps au temps. La CENI, à un certain moment, c'est vrai, elle a évolué à vase clos tout simplement parce que on l'estimait très proche de la majorité. Mais au vu de toute la pression qu'il y a eu, le calendrier est sorti par contrainte. Donc voilà, aujourd'hui, on est en train de payer un peu cette pression là-bas. Mais la volonté théorique de la CENI d'organiser les élections ne suffit pas à elle seule. Je pense qu'il faut plus voir la chose dans le camp du gouvernement, parce que c'est au gouvernement de disponibiliser des fonds nécessaires pour les élections, et notamment sa mission. La CENI n'est que partenaire, et puis ce n'est pas la CENI qui doit donner de l'argent. Donc je pense qu'il faut plus voir, mettre la pression du côté du gouvernement, qui, à mon avis, jusque-là, n'a pas des volontés d'amener le peuple congolais aux élections.
Mais par rapport à cette prolongation de la date des dépôts des candidatures pour les provinciales, quelle est la part du gouvernement dans tout ça?
Bon, la part du gouvernement, c'est qu'on ne sait pas peut-être qu'il y a un langage tacite entre la CENI et le gouvernement. Peut-être que la CENI a fait de jouer un jeu qu'on ne connaît pas encore, mais qui peut le prolonger vers les glissements. Voilà, donc la part de la CENI, c'est le fait que elle ne communique pas clairement les intentions par rapport au budget et à l'argent disponible pour organiser les élections.
Luc, vous avez la parole.
Oui, en fait, j'allais d'abord dire ceci, que quand la CENI dit que cette prolongation n'aura pas d'impact sur le calendrier global, c'est une absurdité. Si nous devons prendre l'approche systémique, dans l'approche systémique, lorsque un élément du système est touché, c'est tout le système qui est touché. C'est comme les maillons d'une chaîne. Comment voulez-vous qu'on puisse couper un maillon d'une chaîne et que la chaîne puisse fonctionner normalement? De deux, moi aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité que l'on aboutisse à ce que j'appelle le glissement consensuel consenti par tous. C'est-à-dire un glissement positif. Parce que il n'y a pas de 36 solutions. La CENI, le confrère l'a dit, est bloquée, Mais j'ose croire aussi que la CENI doit bien jouer sa partition. Quand elle se sent bloquée par le gouvernement, un peu comme l'avait dit Maloumalou, quand il est rentré de ses soins, j'entends qu'il y est retourné, il a dit la CENI a la bonne volonté de respecter son calendrier pourvu que le gouvernement puisse mettre à sa disposition tous les moyens. Mais c'est là justement, on dit que le venin se trouve dans la queue. Et si le gouvernement, dans sa prétendue manœuvre d'aller au glissement, bloque les moyens, notre CENI n'aura rien à faire. Alors moi je pense que la solution la plus raisonnable, la plus positive aujourd'hui, c'est que l'on accepte d'organiser un dialogue consensuel. Et que l'on accepte...
Un dialogue sur quoi? La discussion va porter sur quoi? Sur le calendrier?
Le dialogue portera sur la faisabilité effective des élections. Et va prendre en compte tout ce qui entre comme élément. Le calendrier, les budgets, la logistique et...
Les concertations auront servi à quoi en ce moment-là?
Les concertations auront servi à désamorcer cette tension qui monte de manière inquiétante. Il y a fort à craindre que l'on puisse aboutir à un affrontement et au versement du sang. Le sang a beaucoup coulé dans ce pays. Il ne faudrait plus qu'un seul Congolais puisse payer de sa vie à cause des élections.
J.R. Mokolo, un dialogue, ça serait la solution aujourd'hui pour harmoniser les vues?
Oui, moi je dirais que, en tout cas, les élections ne sont pas une question de vie ou de mort. Donc, je ne pense pas qu'il faille vraiment brûler la case Congo pour les élections. Bon, ce dialogue-là, je crois qu'il est important. Il est important, non pas pour réfléchir comment glisser et en contrepartie des postes ministériels qu'on donnerait à ceux qui auront accepté dans l'opposition.
Mais c'est la crainte de certains politiciens, voilà. Justement.
Donc il va, j'ai même suivi par exemple qu'il y a l'UNC, les MLC, l'UDPS qui ont adressé un mémo au chef de l'État en réponse au message qu'il a envoyé à travers son délégué, l'AG de la mer, qu'ils pourront tout négocier sauf leur entrée au gouvernement. Donc il ne faut pas qu'il y ait en tout cas un troc entre la majorité et l'opposition en termes d'échange.
Ils pourront tout négocier, même le report des élections.
Mais si on doit en tout cas avoir ce dialogue-là, c'est pour, comme l'a dit Luc Mikomo, faire en tout cas une étude de faisabilité de ces calendriers, voir qu'est-ce qui est possible de réaliser comme action, comme élection dans ces calendriers et d'où viendront les financements. D'ailleurs, vous vous rappelez par exemple que la communauté internationale est d'accord pour financer les élections législatives et présidentielles. Donc, on n'a qu'à par exemple s'asseoir et élaguer par exemple les élections urbaines et municipales et autres, essayer d'harmoniser un calendrier, arriver à un calendrier consensuel et avec une réduction du budget et organiser les élections. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans ces pays, on ne doit pas respecter les échéances? Pourquoi on doit être un pays qui doit à tout moment glisser? Il faut glisser. Pourquoi on doit travailler pour le glissement? Mais le problème des finances, moi, j'ai comme l'impression que le gouvernement veut créer les conditions pour qu'il y ait ce glissement-là. Le gouvernement risque de manquer volontairement de l'argent pour que la CENI soit bloquée et que demain, on met tout le monde devant un fait accompli qu'il puisse y avoir glissement. Et avoir ce glissement-là pour gagner quoi? Parce que ça risque d'être en tout cas une période de tension.
Dona Moussema, du côté de l'opposition, on pense que ce report de l'opération des dépôts de candidature pour les provinciales prouve que la CENI devrait finalement jeter un coup d'œil dans la proposition du calendrier proposé par l'opposition.
Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'opposition parce qu'on va se souvenir que c'est surtout l'opposition qui avait réclamé en son temps un calendrier global et inclusif. Aujourd'hui, nous avons ce calendrier là-bas. Je pense qu'il faut éviter de beaucoup tergiverser. Il faut plutôt, je pense, à mon niveau, contraindre le pouvoir à aller et à amener le peuple congolais aux élections transparentes, crédibles et démocratiques, selon justement ce calendrier là-bas, tel qu'il est établi en respectant le délai constitutionnel. Je pense que c'est ça ce qui va nous sortir du bourbier. On est en train d'évoquer le problème d'argent, mais non, il y a l'argent dans le pays. Tout cet argent des contribuables congolais, où va cet argent? On venait de lire, je pense, un article sur l'Internet, comme quoi il y avait 15 milliards de dollars américains qui étaient dilapidés comme ça dans les poches des gens par année en République démocratique du Congo. Donc je pense que C'est la volonté politique qui importe. Ici, à la volonté, on peut aller aux élections selon ce calendrier et selon justement l'esprit de la Constitution. Sinon, commencer encore à penser au dialogue, je pense que ça va nous amener vers le glissement.
Mais beaucoup d'experts pensent que ce calendrier est irréaliste.
Bon, il est irréaliste dans certaines conditions, mais dans l'ensemble, au vu des contraintes qu'il y avait, c'est un calendrier qui peut passer aujourd'hui. Ces questions, par exemple, il s'est focalisé aujourd'hui sur les provinciales, telles que définies dans le calendrier, par exemple, pour le mois d'octobre. Je pense que c'est réalisable. Et les élections présidentielles qui sont les plus importantes, les plus attendues, vers donc 2016, ce n'est pas du tout irréalisable ce calendrier. Il faut un minimum de volonté politique. Et c'est le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement congolais aujourd'hui, qui doit faire preuve de maturité politique en disponibilisant les fonds nécessaires pour permettre à la CENI de respecter ce calendrier.
Merci, Donat. Juste un mot, Luc.
Je crois que nous devons avoir le bon sens. Il est impossible aujourd'hui, toutes les analyses faites des experts, tant nationaux qu'internationaux, la conclusion est la même. Il est impossible aujourd'hui à la CENI de respecter in extenso son calendrier électoral. Donc, il va falloir trouver un consensus politique parce que les élections sont essentiellement une matière politique pour que l'on aille sur un chemin ou un schéma plus ou moins réaliste.
Merci. Un mot. Puis on va passer au deuxième thème.
Les animateurs de la CENI arrêtent avec leur discours suffisant et arrogant. Ils doivent considérer qu'ils sont organisateurs des élections pour les parties prenantes et qu'ils prennent en tout cas des désirateurs de toutes les parties prenantes et de la population plutôt que de croire vraiment que parce qu'on est indépendant, on est en tout cas seul maître à bord.
Merci. Deuxième et dernier thème de ce soir, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, accompagné du gouverneur de la province du Nord, qui vont visiter mercredi dernier le lieu de l'embuscade qui a coûté la vie à deux casques bleus de la MONUSCO ainsi qu'à trois civils. C'est à plus de 30 km au nord de la ville de Beni, lieu appelé Kisiki. Martin Kobler et Julien Paloukou sont allés s'imprégner de l'ampleur de cette embuscade qui a coûté la vie, je l'ai dit tout à l'heure, à deux casques bleus tanzaniens et trois civils. Les deux personnalités condamnent cette attaque ciblée contre les casques bleus. Denise Loukesso pour le reportage.
Martin Kobler estime qu'il est temps d'agir conjointement avec les FRDC pour en finir avec les rebelles terroristes de l'ADF.
Ces criminels attaquent la population, les FRDC, les civils et maintenant aussi la MONUSCO. On ne peut pas le tolérer, ça nécessite une réponse très très robuste. Il faut vraiment réétablir, reprendre la pleine coopération avec les FRDC parce que seulement si nous réagissons la main dans la main contre les terroristes et contre cette atrocité qui menace la population, on aura du succès.
Tout en compatissant avec la MONUSCO et les FRDC, pour sa part, le gouverneur des provinces pense qu'il faut analyser en profondeur ces modes opératoires.
Maintenant, il cible les FRDC, il cible la MONUSCO. Ça montre qu'il y a quelque chose que nous devons approfondir pour comprendre pourquoi ce changement de tactique, pourquoi cette fois-ci le changement de cible. Et pour nous, nous pensons que, et au niveau des Nations Unies, à travers la MONUSCO, et au niveau des FRDC, nous devons activer nos services de renseignement pour que finalement des dispositions soient prises pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau qui veut s'installer ici.
Rappelons que cette embuscade a fait deux morts et 13 casques bleus tanzaniens blessés, ainsi que trois civils, dont un chauffeur et son convoyeur d'un véhicule, ainsi qu'un motard. Beni, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Merci Denise Loukesso, GR Mokolo. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Quelle lecture vous faites de cette attaque contre la MONUSCO?
Oui, ça me préoccupe parce que la MONUSCO a comme mission de nous accompagner en tout cas dans cette quête de la paix à l'est du pays. Quand on s'attaque à la MONUSCO, j'ai comme l'impression qu'on veut soit décourager les casques bleus, tout ça. Et permettant en tout cas que je puisse quand même saluer l'activisme de Martin Kobler, le patron de la MONUSCO. Depuis son arrivée, on sent vraiment qu'il est vraiment engagé, il prend beaucoup, beaucoup de risques. Chaque fois qu'il y a un événement à l'est du pays, il est toujours là sur le front pour pouvoir en tout cas soit consoler la population, soit vraiment se rendre compte de ce qui se passe. J'aurais souhaité par exemple qu'il soit à côté d'un officier national congolais. Mais il était là, à côté du gouverneur du Nord Kivu. Et pourtant, la question de défense, c'est une question qui relève du gouvernement central. Ça, c'est juste une parenthèse. Moi, j'ai comme l'impression que pratiquement les forces du mal qui sont entrées dans notre pays depuis le 17 mai 1997, 97, en tout cas, n'ont pas intérêt à ce que la RD Congo soit en sécurité. J'ai comme l'impression que l'insécurité du Congo fait la sécurité de nos voisins. Et on n'a qu'à dire, voilà, Adef Nalou, personne aujourd'hui n'a mené des enquêtes pour prouver que ceux qui mènent ce genre d'opérations sont des Adef Nalou. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des commandos secrets envoyés sur le territoire national pour essayer un peu de semer la zizanie pour montrer par exemple que non, la MONUSCO ne fait rien, pour démontrer que l'armée nationale ne fait absolument rien. Donc maintenant, moi je me dis que ça ne sert à rien que notre gouvernement puisse en tout cas continuer à être fâché contre la MONUSCO. La MONUSCO aujourd'hui est venue pour nous assister. Moi, j'ai toujours considéré la MONUSCO comme étant des béquilles qui aident une personne fracturée de pouvoir se déplacer. Et quand il y a encore des attaques à l'Est comme ça, vous savez la situation par exemple à Ouvir avec l'arrivée massive
des réfugiés burundais,
c'est encore une autre fois des tensions qui risquent en tout cas de s'allumer. Donc il va falloir que la MONUSCO et le gouvernement travaillent la main dans la main. Et par exemple la condition posée par la MONUSCO, le fait par exemple de retirer seulement deux commandants d'opération et les remplacer par d'autres personnes, je ne vois pas en tout cas qu'est-ce qu'il y a de mal dedans. Il va falloir quand même qu'on puisse nous débarrasser de notre suffisance, notre nationalisme, souveraineté, tout ça. Ça ne dit absolument rien, ce sont des mots, mais la réalité c'est que nous-mêmes ne sommes pas à mesure de pouvoir en tout cas nous prendre en charge sur le plan sécuritaire. Parce que dans un pays qui fonctionne normalement, c'est le gouvernement à travers son armée qui sécurise le pays. Mais aujourd'hui, l'évidence c'est que nous ne sommes pas à mesure, que la MONUSCO est toujours encore nécessaire pour pouvoir nous assister.
Luc Mikomo Kabonga, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée aussi qui émet depuis Kinshasa. Vous êtes éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial de l'Association mondiale des communicateurs catholiques. Martin Kobler estime qu'il est temps d'agir conjointement avec les FARDC pour en finir avec les rebelles terroristes de l'ADF. On sait que le gouvernement avait décidé de mener les opérations contre les ADF seuls, sans la MONUSCO.
Eh bien, là, à l'époque, c'était pas sur ce plateau, sur une autre télévision, j'avais dit que le gouvernement doit faire très attention quand il prend des décisions capitales pour la sécurité et la paix nationale. Quand j'entrais ici, j'ai lu sur une affiche, notre mission, c'est la paix, dans la MONUSCO. Et donc, plus de 20 ans durant, la paix ne répond pas véritablement présent au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Le travail ne fait que commencer. Et quand Martin Kobler dit, il faut que le gouvernement travaille avec la MONUSCO en collaboration, je crois qu'il a raison. Je crois que Martin Kobler a raison dans la mesure où, lorsqu'on attaque aujourd'hui la MONUSCO, on attaque les FARDC, ça veut dire qu'on veut remettre en cause et les statuts de nation de la République démocratique du Congo, de pays viable, et le statut de la MONUSCO comme mission de la paix des Nations Unies. Alors, j'ironise un peu, ces attaques contre la MONUSCO et les FARDC, c'est un appel vibrant aux deux parties, MONUSCO et FARDC, à pouvoir réagir de manière corrective et de manière efficace, comme le dit Martin Kobler, pour réduire à leur plus simple expression toutes les forces négatives. Pas seulement les ADF, pas seulement les groupuscules Maï-Maï, ainsi de suite, mais c'est un appel pour que l'armée nationale ainsi que les forces internationales puissent mettre ensemble et conjuguer en une synergie qui aura comme objectif la réduction totale de toutes les forces négatives qui fassent que la République démocratique du Congo devienne le bastion de l'instabilité et le bastion de l'absence de la paix.
Merci Luc Mikomo Dona Moussema, directeur général de la radio Iriba FM, émettant depuis Bukavu. Vous êtes aussi le point focal de l'Association des journalistes des Grands Lacs, représentant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Le gouverneur Julien Paluku demande au gouvernement congolais de prendre au sérieux ce qui se passe au Nord Kivu et ne pas se limiter à dénoncer.
Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je suis déchiré par un sentiment de compassion à l'endroit des soldats de la paix qui viennent nous aider et qui malheureusement doivent trouver mort dans des conditions tragiques. Quand le gouverneur Julien Paluku appelle le gouvernement à agir, c'est-à-dire que le gouvernement justement n'est pas en train d'agir, c'est-à-dire quelque part il y a une léthargie. Moi je pense que c'est pas la première fois que nous assistons à ce genre d'incidents. Même quand le chef de l'État, je me souviens, était à Beni, il y avait eu des pertes en vie humaine comme ça. Je pense que c'est une humiliation, c'est même un défi qu'on lance à la fois à la MONUSCO, mais aussi au gouvernement congolais, parce que c'est impensable. C'est impensable qu'un groupe rebelle ou, je ne sais pas, des bandes armées puissent comme ça, à tout bout de champ, défier tout un gouvernement, même la mission des Nations Unies pour la paix et tout et tout. Donc, je pense qu'il faut plus agir, il ne faut plus parler. Même quand Martin Kobler dit qu'il est temps d'agir, mais écoutez, est-ce qu'il faut vraiment parler en matière de guerre? Nous avons besoin qu'on agisse maintenant et que ces populations civiles qui nous écoutent puissent vivre la paix. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre la paix. Mais au quotidien, comme ça, on réfléchit sur la question. Nous savons que la MONUSCO est équipée. Il y a le matériel. Il y a le fameux chapitre 7. Tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Les FARDC qui sont plus nombreuses que, je ne sais pas, ces groupes rebelles. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Je pense qu'il y a un manque à un niveau d'une certaine volonté politique, soit au niveau national ou au niveau international. Mais c'est une question qui devrait déjà être... juguler depuis très très longtemps. Ça fait des années qu'on en parle et voilà. Très malheureusement que ça puisse continuer jusqu'à aujourd'hui.
Merci Dola Moussema. On va devoir conclure. J.R. Moukolo, brièvement, quelle serait la solution aujourd'hui pour mettre effectivement fin à tous ces groupes armés qui pullulent dans l'est de la RDC?
Oui, la solution, c'est que la MONUSCO et les FARDC trouvent en tout cas un terrain d'attente. Et pour la MONUSCO, par exemple, si, comme j'ai suivi Hervé Latsous, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, dire que les Nations Unies vont en tout cas agir seules contre les ADF Nalu, il faut que la MONUSCO agisse comme ils l'ont dit, c'est pas seulement par des mots, mais sur terrain, qu'on voit les résultats comme ça a été le cas avec le M23. Et parce que si on ne le fait pas, à quoi aura servi tous ces milliards déversés pour le fonctionnement de la MONUSCO au Congo? À quoi aura servi toutes ces années de présence de la MONUSCO? Comme l'a dit aussi souvent Kobler, la MONUSCO ne veut partir que si, en tout cas la raison pour laquelle elle était venue ici, est éliminée. C'est-à-dire la fin de la guerre et le retour de la paix. Donc la MONUSCO a en tout cas l'obligation des résultats. Et pour le gouvernement congolais, il est responsable au premier plan de tout ce qui se passe au pays et de la sécurisation du pays. Tout doit en tout cas être fait, même s'il faille signer les pactes avec le diable, qu'on les fasse pourvu qu'en tout cas,
merci,
on en finisse avec cette insécurité qui dure très longtemps.
Merci, Pierre Mokolo. Luc Mikomo.
Moi, j'ai l'impression que la République démocratique du Congo est devenue véritablement un non-État. La République démocratique du Congo est devenue le bastion de toutes les crises, encore que, selon certaines opinions, nous sommes la capitale mondiale de la corruption.
La solution, Luc.
La solution, c'est que nous devons plus aller dans les actions plutôt que dans les déclarations. On a signé des accords. Personne ne le respecte. L'accord d'Addis Abeba. On a perdu du temps, si je puis dire, entre guillemets, de trop dialoguer. Mais c'est comme si c'était un dialogue de sourds. Maintenant, stop aux déclarations. Stop aux discours. Place aux actions, mais des actions d'envergure, des actions dissuasives, des actions pour restaurer l'État, pour recréer la nation et pour redonner la dignité à notre peuple et à notre postérité.
Merci Luc Mikomo, Dola Moussema, en un mot, conclusion.
À la MONUSCO, d'épuiser du chapitre 7, le gouvernement congolais est responsable dans sa mission première, celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Aux pays voisins, parce qu'il y a des cas d'infiltration aussi, d'user de tout ce que nous avons dit, chapitre 7, non, je vais dire accord 4 d'Addis Abeba, de respecter tous les engagements qu'on a déjà pris pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs.
Merci, Dola Moussema, c'est la fin de cette émission. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Alain Rung, qui était à la réalisation. La prise de son était assurée par Paul Badiadiaba au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon week-end chez vous et bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.